Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Nous sommes toujours dans la partie sur du catéchisme de l'Église catholique sur l'Église. On essaie d'approfondir le grand et magnifique mystère de l'Église lié au Christ. Et au numéro 787, on ouvre un nouveau paragraphe qui porte sur l'Église, corps du Christ. Et est-ce que, avant de commencer à lire ces numéros, mais est-ce que parler du corps dans la foi chrétienne, c'est quelque chose de bon ou est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Quel est notre rapport au corps dans la foi chrétienne?
Alors, notre rapport au corps est positif, puisque Dieu créa Adam et Ève à partir... pour Adam à partir du limon de la terre et Ève à partir de la côte d'Adam. Donc la matière est impliquée dans cette création et cette création est bonne. Dieu vit que cela était bon à partir de chaque moment de la création et Dieu vit que cela était très bon à partir de l'homme et de la femme. Donc il y a vraiment une bonté intrinsèque. Cependant, l'Église ajoute qu'il y a eu la faute originelle, Genèse chapitre 3, après Genèse 1 et 2, qui exprime bien la bonté de la création. Et du coup, le corps n'est plus tout à fait soumis à l'âme comme au début. Il y a cette mention du livre de la Sagesse, au chapitre 9, que le corps appesantit l'âme. Et cela est dû au fait que ce péché originel, dans ses conséquences, a rendu le corps moins dépendant de l'âme. Et il peut facilement donc être insoumis par rapport à l'autorité de l'âme sur lui. Et cela provoque un combat. On appelle ça souvent le combat spirituel. C'est surtout sensible dans le concupiscible qui s'est transformé en concupiscence, l'irascible qui s'est transformé en fragilité, et du coup, on sent bien que même lorsque l'on veut être rectifié, on n'est pas toujours dans la position qui correspondrait au fait que le corps soit entièrement soumis à l'âme. Mais cela, les non-chrétiens s'en sont rendus compte depuis longtemps. Et Platon, à la suite de Socrate, disait même que l'âme était comme prisonnière dans le corps. Hein. Et le corps apparaît comme une prison chez Platon. L'âme est prisonnière dans le corps prison de l'âme, c'était une expression qu'aimait bien exprimer Platon dans ses dialogues. Et donc on comprend très bien qu'il y ait eu une bipolarité, à la fois un regard positif à cause de la révélation, de la création à l'origine bonne, et d'autre part un regard qui, selon les siècles et selon les tendances spirituelles, a pu dénigrer le corps en voyant qu'il était une pesanteur et qu'il était d'autant plus qu'on s'éloigne de Dieu. Et donc, il y a dans l'Écriture eh bien, cette bipolarité, à la fois on peut être certain que le corps est une bonne chose et d'autre part qu'il est une lourdeur. Pour dire que les choses sont toujours bonnes du point de vue du corps, on pourra s'appuyer sur Tertullien qui dit que la chair est le pivot du salut.
Oui. Alors, je me souviens, Saint Dominique, quand il en rencontre les cathares, s'offusque parce que les cathares ont tendance à rejeter tout ce qui est de l'ordre du corps et de la matière. Et à dire il faut libérer l'âme de ce poids. Mais si on parle de l'Église corps du Christ, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou est-ce que c'est plutôt une bonne chose?
Non, c'est une bonne chose, puisque tout est repris dans la nouvelle création avec Jésus. Et si, comme nous venons de le dire avec Tertullien, que la chair caro cardo salutis, la chair reprend sa place avec Jésus-Christ puisque Jésus fait un être nouveau, répare toutes choses et redonne dans le fond à la chair sa place. Le jour de son ascension, elle monte au ciel, cette chair. C'est son corps lui-même qui monte au ciel et qui rend l'espérance pour l'âme, pour le corps, et notre corps en particulier, ainsi reprend toute sa valeur. Il y a une espérance immense grâce à la venue de Jésus-Christ sur la terre.
Et ce qui est très beau, c'est le rapport entre l'âme et le corps. J'avais vu en cours, c'est ça, enfin, tu me confirmeras ça, mais l'âme a besoin du corps pour comprendre les choses, pour connaître. Et puis il y a une intimité entre l'âme et le corps qui est extraordinaire. Et donc j'imagine que pour parler de l'Église corps du Christ, il y a quelque chose de ça dont sur lequel on va s'appuyer.
Oui, certainement. Le Concile de Vienne dit explicitement l'âme est la forme du corps, et c'est-à-dire la source des déterminations du corps. Donc c'est très fort, hein, parce que l'âme est vraiment celle qui donne au corps sa consistance. Et d'ailleurs, on sait bien, lorsque quelqu'un meurt, on ne peut plus parler de corps, on parle d'un cadavre. Et il y a très vite décomposition, puisque l'âme ne maintient plus l'unité, le souffle, la vie, et il y a déperdition très rapide. Donc on voit bien que le corps sans l'âme est complètement perdu, et pourtant l'âme a besoin du corps pour apprendre, pour comprendre. On a besoin de passer par les sens, qui sont des moyens donc de contact corporel, puisque les sens, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc., nous mettent en contact avec les réalités corporelles. Et nous ne connaissons qu'à travers les sens. Donc il y a vraiment un besoin du corps pour que l'âme apprenne, connaisse. C'est une nécessité, je dirais, de notre situation telle que nous avons été créés. Nous ne sommes pas, nous n'avons pas des concepts qui seraient préétablis en nous, comme le pensait Platon. Il faut passer, avec la philosophie d'Aristote, par la sensibilité concrète des choses, en touchant, en sentant, en voyant surtout, que nous emmagasinons ainsi des concepts et nous arrivons à intelliger les choses. Donc c'est très important pour l'âme, ce contact corporel. Oui.
Et donc quand le Christ nous propose une communion très grande, très forte avec lui, et finalement de comprendre qu'il veut être la tête de ce corps qu'est l'Église, il nous propose en fait une intimité, une grande communion avec lui, presque indissociable. Il veut nous associer à lui d'une manière indestructible. C'est quelque chose de très impressionnant, finalement. C'est comme si l'âme proposait au corps de s'associer à lui.
Oui, alors bien sûr, c'est mystérieux. Hein. On rentre dans des expressions qui doivent être prises à un niveau surnaturel et qui nous permettent, par ces analogies, de nous exprimer dessus. Mais ça reste mystérieux quand les pères de l'Église disent que par la communion eucharistique, nous sommes concorporels, consanguins au Christ. On comprend bien qu'il ne s'agit pas d'une concorporalité comme nous l'aurions frères et sœurs issus du même sein maternel ou consanguins comme nous aurions le même rhésus sanguin parce que nous aurions les mêmes parents. Il s'agit d'autre chose, il s'agit d'images pour parler de la vie. Hein. Jésus en particulier a choisi l'Église et il a permis que nous soyons son corps à un niveau donc spirituel, unité par amour et volonté, mais aussi vraiment naturel, c'est-à-dire comme dans l'unité du corps il paraît quelque chose de plus intime, eh bien il y a vraiment cette intimité que Jésus réalise à travers cette union qu'il a avec nous.
Et cette union au 788 du catéchisme de l'Église catholique semble passer entre autres par le don de l'Esprit Saint. On lit au. Il y a une citation du Lumen Gentium numéro 7. En communiquant son esprit à ses frères, qu'il rassemble de toutes les nations, il les a constitués mystiquement comme son corps. Comme si l'esprit du Christ, qui est tête, allait se répandre dans tous les membres. Donc ce don de l'esprit semble créer cette unité, enfin le lien avec tous les membres.
Oui, tous les membres. Comme nous le savons, Dieu est esprit, et c'est Jésus qui le dit à la Samaritaine. C'est cette dimension spirituelle que Jésus est venu réaliser par le don de son corps, en faisant de lui la tête de ce corps et en nous unissant à lui par des liens surnaturels. Il ne faut pas trop forcer, je dirais, l'analogie pour essayer de voir dans notre imaginaire comment nous serions reliés à lui par des cellules ou par des membres. Nous faisons un acte de foi. C'est le baptême qui nous relie au Christ parce que nous sommes plongés dans sa mort et dans sa résurrection. C'est ça qui est l'essentiel, qui nous fait appartenir corps et âme à notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous assimile à lui plus que nous ne l'assimilons à nous au moment de la communion eucharistique.
Oui, oui.
Et donc, du coup, il faut toujours surnaturaliser les choses pour bien les comprendre et ne pas trop serrer les analogies, les métaphores qui nous sont données et dont nous avons besoin pour nous exprimer, mais qui nous laissent toujours un petit peu, pour une part, comme toute analogie, un peu sur notre faim, puisque une analogie n'est qu'une proportion.
Merci, frère Edouard.
À bientôt.
À bientôt.